Véronique Arouel-Durloux est docteur en histoire du droit depuis 1996. Elle a été élue maître de conférence en histoire du droit à l'Université de Paris 8. Elle a rédigé sa thèse sur le CICR et la France et elle continue à travailler sur l'histoire du droit humanitaire et de la Croix-Rouge. Outre plusieurs articles et comptes rendus, Véronique Arouel-Durloux a publié 3 ouvrages aux presses universitaires de France. Une histoire de la Croix-Rouge, en 1999, les grands textes du droit humanitaire en 2001 et un traité du droit humanitaire en 2005. En 2003 à Genève, la société Henri Dunant et le comité et le CICR ont fait paraître sa thèse sous le titre « Genève-Paris 1863-1918, le droit humanitaire en construction ». Elle a publié en 2011 chez Ellipse un manuel intitulé « Leçons d'introduction historique au droit » et fait paraître en 2014 une « Histoire du droit international de la santé » aux éditions des études hospitalières. J'ai le plaisir de passer la parole à Madame Arouel-Durloux.
Je vous remercie. Alors, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation du Salvador et l'ensemble des organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque pour mémorer le centenaire de la remise du prix Nobel de la paix au CICR. En 1917, le CICR donc, reçoit le prix Nobel de la paix lorsqu'il reçoit donc, son agence a déjà 3 années de travail derrière elle. Et l'histoire de la création donc, de cette agence intéresse particulièrement la France. En effet, elle a eu l'initiative de la résolution de 1912 sur laquelle le CICR s'est fondé pour la créer. Et la IPG reprend la mission accomplie en 1870 et 1871 par la Croix-Verte, créée avec l'aval du Comité international. Mais ça va plus loin en élargissant sa mission aussi. De 1914 à 1918, le CICR est surtout constitué par son agence. Aussi, pardon, à Genève du siège, en songeant au comité et du terrain pour l'agence. Le comité détermine la politique, entre guillemets, de l'institution que l'agence donc met en œuvre au quotidien. Pendant ces douloureuses années, les relations entre l'AIPG et les autorités françaises sont toujours courtoises, mais non exemptes de certaines tensions. Car face à l'agence, la France, belligérante, veut conserver l'entière maîtrise des informations qu'elle lui fournit. Parallèlement, dès 1914, l'agence a l'ambition de servir de référence aux Français et qu'ils suivent également ses méthodes. Et elle montre à la France, quand il le faut, son efficacité, son caractère indispensable pour le pays. Alors voyons donc dans un premier temps, l'agence qui est donc une émanation du CICR indispensable à une France jalouse de ses prérogatives. L'AIPG dispose d'une organisation centralisée qu'à son grand regret, elle ne retrouvera pas en France. Parallèlement, elle lui impose l'ouverture de sa section civile en faveur de personnes dont Paris ne comptait pas trop se préoccuper. Alors, voyons donc une agence soucieuse de servir de modèle à la France. Lorsque le CICR annonce l'ouverture de son agence le 28 août 1914, il cherche à se prémunir contre toute organisation concurrente. Aussi, la Croix-Rouge française dissuade-t-elle la colonie américaine de Paris de constituer un bureau pour les prisonniers de guerre et fait-elle de même avec Robert Mizard, un Belge habitant Paris, qui voulait créer à La Haye une association internationale pour les secours aux prisonniers de guerre. À Genève, l'agence et ses collaborateurs doivent respecter une stricte neutralité. Et Max Dollfuss, dont on a entendu parler ce matin, français d'origine alsacienne qui co-dirige le service de la correspondance courante de l'agence s'est heurté à cette règle. En septembre 1916, Gustave Adorf le convainc de démissionner alors qu'il est devenu le délégué pour la Suisse de la Fédération nationale des sociétés de secours aux prisonniers de guerre, créée par un bureau dépendant de l'ambassade de France à Berne. Un peu avant, en février 1915, Adorf est à Paris et y note quelques jalousies à l'égard du développement de l'agence. En France, on le sait, l'organisation des renseignements et des secours aux prisonniers de guerre n'est pas centralisée. À côté du bureau de la Croix-Rouge française, il en existe deux autres, un au ministère de la Guerre et un aux Affaires étrangères, d'où des difficultés de répartition des tâches. Aussi, entre 1915 et 1918, l'agence envoie-t-elle à Paris plusieurs missions pour améliorer les transmissions de relations entre les services français et les siens. En novembre 1915, Jacques Chenevière va au ministère de la Guerre pour discuter notamment des modalités d'envoi des reliques des militaires décédés. Et celles-ci sont adressées sous pli scellé avec une enveloppe comportant l'identité du défunt. Pour les pensions et les successions, l'agence transmettra au bureau des archives du ministère toutes les notifications de décès pour y être identifiées, car il a, ce bureau des archives, donc une très grande influence sur les tribunaux qui délivrent les déclarations de décès. Pour les militaires dont l'agence connaît la sépulture avec l'inscription, mais dont les noms ne se retrouvent sur aucune liste de morts, elle enverra un bordereau reprenant les informations connues parce qu'elles constitueront un commencement de preuve pour les tribunaux. En mission en mars 1916, Marguerite van Berchen obtient que le ministère de la Guerre transmettre directement les requêtes de l'agence à tous les commandants de camp afin de recevoir désormais des réponses régulières de leur part. Puis à la Croix-Rouge française, Marguerite van Berchen s'intéresse particulièrement à la question de la transmission des listes allemandes jugées mauvaises et lentes. Et celle-ci donc s'améliorera par la suite de cette visite. Mais toutefois, elle note le nombre insuffisant de dactylographes, leur manque d'attention et l'absence de services de collationnement. De Genève, l'agence demande en septembre 1915 au ministère de la Guerre que les chefs de lazaret et les commandants de camp soient autorisés, comme en Allemagne, à remplir des formulaires pour donner des informations plus précises sur les décès des prisonniers. Puis, en juin 1916, Gauthier, Marguerite Kramer et Jacques Chenevière vont au ministère de la Guerre pour le persuader de revenir sur la récente interdiction faite à l'agence de communiquer les avis de décès. L'objectif, précise-t-il, n'est pas de remplacer les avis officiels que seules les autorités peuvent envoyer, mais ils savent que les avis de décès de l'agence, munis de la signature et du sceau du chef de lazaret, permettent aux familles de recevoir des secours où ils pensent, d'où leur importance. Et donc Paris reviendra sur sa décision. Alors prenons maintenant une agence qui impose difficilement les services de sa section civile à la France. En septembre 1914, on le sait, le docteur Ferrière use de son droit d'initiative, du droit d'initiative du CICR, pour créer une section civile au sein de l'agence, qui, on le sait également, aura donc Romain Rolland comme collaborateur. Puis, en octobre, sur le même fondement, le CICR demande aux belligérants d'assimiler les internés civils aux prisonniers de guerre, bien qu'aucun texte ne leur soit applicable. Mais les autorités françaises ne montrent pas le même empressement que Genève à appliquer une mesure non prévue par le droit de la guerre. Toutefois, le ministère de l'Intérieur va créer un bureau spécial, mais la lourdeur de la procédure administrative et le manque de coordination entre les services français font que Genève ne reçoit que quelques réponses tardives à ses demandes d'urgence. De plus, depuis cette création, les commandants de dépôt d'internés ne peuvent plus répondre directement à l'agence, laquelle va donc passer par Paris pour toutes ces démarches. Parallèlement, en 1915, Ferrière attend toujours les listes des internés allemands en France qui n'arrivent que l'année suivante, après avoir été établies par le ministère de l'Intérieur et transmises aux affaires étrangères pour être adressées à Genève. Cette longue procédure freine considérablement le travail de l'agence, donc de sa section civile. Aussi, en juin 1917, l'agence demande-t-elle instamment à la France de simplifier le cheminement administratif de la transmission des listes et des messages. Mais cela ne sera réalisé qu'en mars 1918. Très vite, l'agence veut sortir les habitants des départements envahis de leur isolement. Ainsi, à l'automne 1915, pour supprimer la crainte allemande de l'utilisation d'écriture codée, Genève et le CICR, donc le CICR, suggèrent que les cartes soient rédigées par les fonctionnaires de mairie et proposent que l'agence serve d'organe de transmission. Toutefois, en décembre, celle-ci, donc l'agence, apprend par la Croix-Rouge française que Paris et Berlin ont créé un système de fiches de monde comparable à celui de l'agence, rendant donc ses services superflus. Alors, tout en déclarant rester à la disposition de la France, l'agence se dit heureuse de cet accord, d'autant que le CICR est intervenu en faveur de sa réalisation. C'est un regret, et pour des raisons de sécurité nationale, je cite, explique le ministère que Paris a adopté ce système restreignant le rôle d'intermédiaire de la section civile de l'agence. Et cette dernière doit donc annoncer la fermeture du service concerné début juillet 1916. Néanmoins, fidèle à sa mission, elle va continuer à faire suivre certaines lettres. D'ailleurs, en 1917, elle a transmis 11 000 messages et 8 000 réponses au sujet desquelles Paris lui a demandé des explications, je cite, sous une forme amicale. Aussi, en avril 1918, Clouzot de la section civile démontre-t-il à Paris que l'agence s'en est tenue à l'engagement de l'été 1916 et explique ses transmissions en évoquant un possible relâchement du contrôle postal français. Il s'est créé, explique Ferrière, un conflit entre la logique de Genève et celle de la France qui a fait primer les impératifs de la sécurité nationale. Quant à Hélène Raffin de la section civile, elle rappelle au ministère de l'Intérieur que la France s'était il y a peu déclarée convaincue que c'était grâce, je cite, à la persévérance tenace de l'agence qu'il pouvait exister un service de correspondance entre les départements envahis et le reste du pays. De plus, ayant passé son temps à défendre et à soulager, je cite, Hélène Klein, les civils de ces territoires, il lui a été, je cite encore, impossible à la longue de refuser des demandes désespérées. De fait, après ces explications, Hélène Appien peut de nouveau donner suite aux demandes qui lui parviennent de la part donc des familles françaises à la recherche de nouvelles dealers en territoire occupé. Ainsi, on le voit, tout en respectant ses décisions, l'agence montre au gouvernement français qu'il ne peut pas se passer de ses services. Alors, dans un deuxième temps, on va voir donc des interventions novatrices de l'agence qui aident les Français victimes de la guerre. Entre 1914 et 1918, l'AIPG a reçu de nombreuses demandes d'informations auxquelles elle a le plus souvent répondu grâce à ses fichiers et aussi après de minutieuses enquêtes. Et Paris sait que ce travail rend service à la population. Donc voyons les actions de l'agence en faveur des prisonniers de guerre. Fin septembre 1914, lors des batailles de Champagne, l'agence demande aux Croix-Rouges françaises et allemandes d'accélérer la rédaction de leur liste et réitère sa requête en novembre 1915 auprès de Paris. Puis en 1917, l'agence se félicite que les listes françaises comportent l'adresse de la famille du prisonnier, car cela lui permet de transmettre plus vite des informations. La même année, Marguerite Kramer est assurée par Paris que les causes des décès vont être mentionnées sur les listes des prisonniers allemands, car Berlin a promis de faire de même. Encore en septembre 1914, en raison de l'afflux de requêtes arrivant d'Allemagne, l'ambassade d'Espagne fait savoir que Berlin autoriserait les prisonniers à correspondre avec leur famille par l'entremise d'un pays neutre si la France accordait la réciprocité. Berlin demande donc à Ador d'aller à Bordeaux et à Berlin pour organiser un service de correspondance dans lequel l'agence servirait d'intermédiaire. Puis en 1918, l'agence crée le service des messages express pouvant contenir 20 mots pour les prisonniers privés de nouvelles de leur famille depuis 3 mois au moins. Depuis 1914, l'agence recherche des renseignements directement auprès des commandants de camp ou des chefs de lazaret. Lors de certaines enquêtes, l'agence se heurte à la méfiance française. En 1917, Marguerite Kramer obtient toutefois un certain assouplissement de la censure française, jugée trop stricte par l'agence, et dont le travail dans la recherche des disparus est considérable. En effet, en 1918, les témoignages des prisonniers français sur leurs camarades disparus représentent 228 volumes de 400 pages chacun, à savoir 9000 renseignements non mentionnés sur les listes officielles. À la fin 1915, l'agence intervient à plusieurs reprises auprès de Berlin pour obtenir la réunion des membres d'une famille dans un même camp. Mais en avril 1916, le CICR apprend par la Croix-Rouge allemande la suspension de ses autorisations en raison de l'absence de réciprocité dans la même proportion par la France. Dans le même temps, l'agence est régulièrement sollicitée par les futures épouses pour faire accélérer l'envoi de documents administratifs permettant leur mariage avec un prisonnier. Par ailleurs, à l'automne 1917, Marguerite Kramer défend ardemment l'appel lancé par le CICR en faveur du rapatriement des prisonniers valides ayant subi une longue captivité. Elle note que les autorités françaises se désintéressent du sort d'hommes devenus inutiles pour la défense du pays et que seules les personnes habituées à s'occuper des prisonniers sont convaincues de l'urgente nécessité de les libérer. Alors Marguerite Kramer démonte une à une les objections françaises et influence ainsi de manière décisive les autorités qui finalement négocieront avec Berlin. Alors voyons maintenant donc les actions menées par l'agence en faveur des civils. Pour répondre aux plaintes de familles des prisonniers civils, l'agence interroge les commandants de place, les préfets, les sociétés nationales ou bien d'autres autorités. En 1916, Ferrière demande au ministère de l'Intérieur que le dépôt de Lidieu soit visité pour que soit examiné le bien fondé des réclamations reçues par l'agence. Mais lorsque Ferrière fait cette démarche, il sait que l'ambassade des États-Unis doit inspecter le camp. Ainsi, la section civile marque sa volonté de ne pas se dessaisir du dossier. L'agence a réussi à transmettre vers la France non occupée plusieurs lettres arrivées des dépôts des territoires occupés, grâce notamment à la complaisance de certains commandants de place. Elle espère pouvoir ainsi organiser un service limité de correspondance. À la fin de 1917, le fichier intitulé « Correspondance avec les territoires occupés de la France » compte plus de 100 000 fiches. Parallèlement, comme depuis mars 1915, l'évacuation des civils des départements occupés vers Annemasse donc a commencé, quand ils passent à Genève, l'agence leur distribue une carte à lui renvoyer avec leur nouvelle adresse afin de leur faire parvenir les lettres restées en souffrance à la section civile. Et elle crée un fichier des réfugiés. L'annonce de convoi d'évacuation en décembre 1915 et janvier de l'année suivante entraîne l'arrivée à la section civile de milliers de demandes d'évacuation de la part de particuliers en faveur d'un membre de leur famille. Demande donc que l'agence transmet à la Croix-Rouge allemande pour qu'elle les fasse parvenir aux personnes concernées. Mais, ne recevant pratiquement aucune réponse, elle décide d'attendre la fin du transport des évacués pour savoir si une personne précise a ou non obtenu l'autorisation de partir. Puis, en octobre 1917, alors que Paris apprend que Berlin refuse désormais les demandes d'évacuation, l'agence envoie quand même celles concernant les enfants afin qu'ils puissent rejoindre leurs parents déjà évacués. Des démarches diplomatiques ayant lieu, la section civile obtient de nombreuses évacuations. En effet, le ministère de l'Intérieur renvoie les requérants vers elle, vers l'agence, pour qu'elle leur demande, pour que leur demande, pardon, est une chance de réussir. En 1917, le gouvernement français a rendu hommage aux ailes des neutres, notamment aux CSR, aux sociétés nationales, qui, malgré maintes difficultés, ont tout tenté pour améliorer le sort des civils, des territoires occupés. Alors, en forme de conclusion, on dira qu'en 1918, à la section française, comptait 2,5 millions de fiches sur les 7 millions du fichier de l'agence. L'action véritablement extraordinaire menée pendant la Première Guerre mondiale par le CICR et son agence sera consacrée par l'adoption en 1929 d'une convention consacrée aux prisonniers de guerre qui mentionne l'agence centrale de renseignement sur les prisonniers de guerre. Et ce sera d'ailleurs le nom de celle créée en septembre 1939 qui se préoccupera aussi du sort des civils. Donc, j'ajouterai que cette convention de 1929 sur la protection des prisonniers de guerre est la première à mentionner le comité international de la Croix-Rouge et à lui accorder implicitement un droit d'initiative pour agir en faveur donc, des prisonniers.